Bonjour à toutes, à tous, à chacun, à chacune. J'ai le grand plaisir de vous concocter aujourd'hui une émission de la Route Inconnue spéciale haïku. Et oui, nous aurons deux haïkistes ou haïjin, comme on voudra, parce que le mot japonais pour dire poète de haïku, c'est haïjin. En France, on dit parfois haïkiste. En tout cas, on verra ce qu'en pense Jean-Louis Chartrain et ce qu'en pense également Isabelle Asuncelo, qui sera ma deuxième invitée. Jean-Louis, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est ensemble pour présenter Le cri du singe mouillé, haïku et poème bref sous la pluie. C'est sous la pluie et sur la pluie, puisque c'est un recueil qui est entièrement consacré à la pluie. La pluie qu'on se prend dans la figure, la pluie qu'on attend, la pluie qu'on espère parfois, c'est le cas des jardins. Voilà. Et ce livre, comment en avez-vous eu l'idée? Ça, c'est quand même très original de faire un recueil de poèmes sur la pluie. Je crois que c'est la première fois que ça arrive.
C'est bien possible. L'idée m'est venue qu'il a plu pendant presque une année, 2012-2013, d'un printemps à l'autre, à peu près. Et comme beaucoup de gens, je pense, nous en avions par-dessus la tête d'être enfermés, de subir la pluie, même si nous sortons quand même sous la pluie. Donc j'ai commencé par une réaction de rejet et puis petit à petit je me suis dit que j'allais peut-être en faire quelque chose. J'ai commencé à écrire un petit haïku, un petit RC par-ci par-là et de fil en aiguille un peu plus d'une centaine de textes sont arrivés sur la pluie.
Sur la pluie. Elle est devenue une compagne, hein. Une compagne de vos jours. C'est ce qu'on sent dans ce livre.
Oui, certains lecteurs ou lectrices m'ont dit qu'ils ils voyaient la pluie d'un autre œil maintenant. Oui. Tant mieux.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur les origines de votre passion pour le haïku. Je sais que vous êtes enseignant. Il y a eu un premier livre dont on avait parlé sur le rugby, parce que vous êtes aussi un passionné de rugby et un ancien joueur de rugby. Et vous aviez fait, alors là encore, quelque chose de très original, un livre de haïku sur le rugby. Alors, on va revenir aux sources. On parle de pluie. On va revenir aux sources. Comment avez-vous connu le haïku? Cette rencontre, elle s'est faite comment?
Eh bien, j'ai connu le haïku par l'intermédiaire de Michel, ma compagne, qui, je crois, a commencé à s'intéresser au haïku dans le cadre de séances de poésie dans sa classe. Et puis, elle m'a fait connaître le haïku. Nous avons ensemble pris connaissance du fameux « Fourmi sans ombre », le livre du haïku de Michel Coyot. Chez Libretto,
oui, c'est
très très intéressant.
C'est un vademécum, hein. On peut le lire, le relire.
Oui, oui. Nous avons aussi, nous avons aussi cherché des renseignements, parce que le haïku ne s'appréhende pas de but en blanc. Non. Du côté d'Henri Brunel, chez Librio, dans Les Haïkus, oui. Très intéressant aussi. Et puis nous avons donc écrit des haïkus avec les élèves. Et avec le recul, ça n'était pas souvent des haïkus véritables, mais bon. Il faut bien mettre le pied à l'étrier.
Oui. Alors le haïku, précisons-le, Jean Antonini le fait une fois par mois dans La Route Inconnue, mais c'est un poème qui, au départ, en tout cas, était un 5-7-5, c'est un tercé. Donc trois vers, le premier vers de 5 syllabes, le second de 7 syllabes, le troisième de 5 syllabes. Ça a changé depuis, même les Japonais ne pratiquent pas systématiquement le 5-7-5. Est-ce que vous y êtes attaché ou est-ce qu'à un moment vous avez dit, bon... On peut faire autrement aussi.
Alors, je voudrais juste préciser que le haïku est un monostique. C'est donc un seul vers, mais en trois parties.
En trois parties.
Voilà. Donc la question, c'était, pardon...
Par rapport au, 5, oui. Au fameux 5-7-5. 5 syllabes, 7 syllabes,
oui.
5 syllabes.
Alors le 5-7-5, moi j'y tiens en tant que contrainte créatrice. Je pense que si on ne se donne pas des règles du jeu, il est difficile de jouer. Et la poésie, c'est jouer avec le langage, jouer sur le langage. Donc il faut se donner des règles du jeu et les respecter. Donc 5, 7, 5, oui. Par contre, on peut aussi prendre quelques libertés. Vaut mieux, je dis souvent, un bon 5, 8, 4 plutôt qu'un moins bon 5, 7, 5.
Ouais, il ne faut pas ajouter des mots pour que ça fasse 5 syllabes ou en retirer.
Oui.
Pour que...
Donc une contrainte créatrice, mais certainement pas un carcan.
Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette pratique de haïku? Vous auriez pu vous diriger vers une autre pratique poétique. Est-ce qu'elle a quelque chose quand même de très singulier, cette pratique de haïku? C'est qu'elle nous rend plus proche, sans doute, de notre propre vie.
Oui, bon, je pratique aussi d'autres formes de poésie, hein, des tercets, des textes courts, parfois des textes longs. Mais j'aime beaucoup le haïku. Qu'est-ce que ça nous apporte, je pense, une certaine forme de... Après l'effort de la création, de la recherche, une certaine forme de sérénité. C'est une forme de méditation par la poésie, ces petits textes. Le haïku, c'est aussi exercer son regard, l'acuité de son regard pour découvrir des choses que nous ne voyons plus,
oui,
par l'habitude de la vie, par les routines que nous mettons en place. Donc ça permet de retrouver une sensibilité à ce qui nous entoure.
La vie vous est apparue dans toutes ses couleurs, c'est ça, ou en noir et blanc parfois?
Donc peut-être c'est ce qui fait que j'ai fini par jeter un œil différent, un regard renouvelé sur la pluie, par exemple.
Ouais. Alors comment vous pratiquez? Est-ce que vous avez un carnet dans votre poche, comme ça? Vous marchez, vous avez votre carnet dans votre poche, et puis tac, il y a quelque chose qui vous frappe, et vous le notez?
Donc j'ai le carnet, mais contrairement à d'autres personnes, peut-être j'oublie souvent de l'avoir dans ma poche, ou... Quand dans les sorties, les promenades, les randonnées des haïkus naissent, bien nous les mémorisons, nous les retravaillons oralement. Et puis, en rentrant, nous nous hâtons de les écrire, parce que parfois, on perd, c'est un petit peu dommage.
Ouais. Alors, je parlais de pratique singulière. La grande singularité du haïku, c'est que finalement, on ne doit pas vouloir écrire un haïku. C'est lui qui vient vous chercher, c'est ça, hein?
Oui, le haïku peut naître de la vie que l'on mène, des rencontres que l'on fait, du regard que l'on pose sur les choses, mais parfois on peut avoir envie d'écrire un haïku sur tel ou tel sujet. C'est peut-être moins facile comme démarche, mais ouais, ça peut être intéressant de s'exercer. Hein. Les Japonais ont des clubs de haïku et ils s'exercent.
Ouais.
L'animateur du club vous donne un thème et pendant la semaine, vous devez écrire 3 haïkus et revenir avec la semaine d'après. Il faut s'exercer.
Oui, c'est un travail.
Moi, je m'exerce beaucoup par les groupes de poésie sur Facebook où nous échangeons les textes que nous lisons, nous nous entraidons à les améliorer.
Oui. Et vous animez également une association qui s'appelle les Souffleurs de Verre. Vous enseignez aussi le haïku, vous enseignez l'écriture?
Oui, avec l'atelier des Souffleurs de Verre qui se tient une fois par mois le mercredi à la librairie Les Perluettes à 17h30. Nous pratiquons 2 ou 3 séances de haïku par an.
Oui.
Parce que les gens aiment bien, découvrent. Bon, c'est assez difficile, donc une fois par an, ça n'est pas beaucoup. 2 ou 3 séances. Cela permet aux gens de découvrir, d'approfondir aussi.
Si vous aviez 1 ou 2 conseils à donner à nos auditeurs, ceux qui veulent se lancer dans l'haïku, est-ce qu'il y a une attitude par rapport à la vie, par rapport qu'on se doit d'adopter? Petit à petit, bien sûr.
Je ne sais pas. Je pense que l'attitude, nous la développons à force de lire et d'écrire des haïkus. Il faut en lire. Il faut lire des haïkus. Il faudrait tomber plus souvent sur de véritables haïkus parce qu'on trouve un peu tout sous la dénomination haïku. Donc je conseillerais aux auditeurs de lire des revues de haïkus comme Gong, comme la revue Plock et la lettre de haïku de Plock que j'anime, de façon à entrer dans la culture de haïku. Il faut en lire, s'exercer à écrire et... Le regard se développe petit à petit.
Est-ce qu'on devient un peu zen? Pas au sens où Zazie l'entendait, hein, zen, réellement zen. Est-ce que vous vous intéressez par exemple au bouddhisme zen? Souvent on dit, voilà, c'est un peu indissociable les deux.
Pas plus que ça, oui, il y a tout un courant du haïku qui se revendique proche du zen, dont Henri Brunel par exemple. Mais par rapport à la culture du haïku et à ce que j'en connais, ça n'est pas, non, ça, le zen et le haïku ne sont pas automatiquement liés.
C'est pas obligatoire, oui.
Mais comme je le disais tout à l'heure, le haïku, c'est une forme de méditation.
Ouais. C'est une voie à part entière.
En lisant.
Ouais.
Et ça fait énormément de bien quand on s'arrête ne serait-ce que 10 minutes pour lire quelques haïkus dans un joli recueil que nos amis haïkistes ou haïjins savent faire. Cela détend, donne une ouverture, un autre regard, la respiration se pose.
C'est une forme de respiration aussi. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà essayé, par exemple, de rester allez, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois sans écrire un haïku?
Oh non. 1 ou 2 semaines, oui. Mais pas
grand
plus,
maximum.
Pas plus. Mais il arrive certaines périodes, mais en fonction de ce que l'on fait.
Ouais.
Par exemple, quand nous sommes en vacances, l'été, pendant 2 ou 3 semaines, j'en écris très peu. Mais au retour... Ils arrivent,
oui.
Moi, j'aime bien laisser passer un peu de temps par rapport à une expérience de vie ou une découverte.
Le différé existe aussi dans l'haïku, c'est-à-dire des choses... On ne sait pas qu'on a été frappé par des choses, et puis 2 semaines plus tard, on se rend compte que, voilà, on a vu telle chose, qu'on a été touché par telle
Oui, cela vient. Oui. Il faut être à l'écoute de ce qui vient et le retravailler, l'écrire. Mais souvent, il y a toujours un débat entre la spontanéité. C'est vrai que le haïku ne doit pas être, n'est pas un texte avec des effets poétiques au sens où on l'entend dans la poésie française et classique. Donc, il faut de la spontanéité. Mais en même temps, le haïku, si la première impression qui nous arrive est la bonne, la première formulation est rarement la bonne. Cela nécessite de relire, de le dire, de le partager, de le retravailler.
Mettez-vous à l'écoute du haïku, mettez-vous à l'écoute de la pluie, en lisant Le cri du singe mouillé, haïku et poème bref sous la pluie de Jean-Louis Chartrain. C'est un livre qu'on peut découvrir si on habite en Eure-et-Loire, forcément à la librairie L'Esperluette à Chartres. On peut également le commander à Edilivre, qui
sur
est
votre éditeur. Sur le site Edilivre, oui, sous forme électronique ou sous forme papier,
d'accord,
comme on veut.
On tape Edilivre sur son moteur de recherche, on le trouve sans problème.
Edilivre, sans problème, oui.
On laisse passer un peu de musique et on écoute quelques haïkus du cri du singe mouillé. Du singe mouillé secoue l'air immobile. Nuit sous la tente, le bruit de la pluie jusque dans le dernier rêve. Bord de mer, le vieux parapluie abrite deux naturistes. Poussé au ciné par une nouvelle averse, le passager de la pluie. La pluie, que de pluie sur le parapluie, en dessous les larmes d'Hélène. Chasse aux escargots. Au fond de mon arrosoir, ma main touche la lune. Elle est revenue. Un bruit familier court dans la gouttière. Encore aujourd'hui, je vais nu, nu sous la pluie, que j'imagine. Voilà, c'était Le cri du singe mouillé, haïku et poème bref sous la pluie de Jean-Louis Chartrain, publié chez Edilivre. Ah, c'était le merveilleux Ahmad Jamal, Gypsy. Je ne vous ai pas dit en début d'émission que vous alliez retrouver, mais il est vrai que vous en avez l'habitude, nos trois chroniqueurs du mois. Il s'agit de Patrick Jockel, de Claude Verset et de Cécile Guivarche.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc pour cette chronique, j'ai très envie de vous parler de Terre à Ciel, enfin plus précisément des poètes que nous invitons à chaque numéro à notre table. C'est-à-dire que nous sollicitons des poètes, on leur demande de nous envoyer des textes inédits. On en reçoit aussi de manière spontanée. Et en comité, nous décidons de la publication des textes en nous basant sur la maturité de l'écriture, son originalité, sa capacité à nous émouvoir. Donc pour La Route inconnue, j'ai préparé une petite ronde de nos invités de 2014. Donc vous êtes prêts? J'y vais. Alors, Corinne Lelévrier. À chacun de mes morts, je suggère, je propose, j'avance de quelques brassées de jambes et de mains, de doigts écartés. Dominique Boudou. Un rêve de guerre traque tes yeux battus quand tu te réveilles. Ses ombres épuisent tes jambes dans la tourbe du jardin et le café prend le goût des dents creuses. Aucun soldat n'y chancelle au bord du vide. Aucune mitraille dont tu pourrais te saisir pour continuer le jour avec nos mots. Clotilde Marceron. C'était janvier, je crois, qui me faisait la fête. On ne dit pas assez l'eau et le pain de l'amitié. Philippe Lux. Le fleuve aussi est un poème. Dès l'aube, avec ses ponts et ses passants, ses mots qui tressent l'eau, sombre, et tout son flux d'avenir, sans attache. Florence Saint-Roch. Rien ne nous retient vraiment ici. Au mieux, on joue les seconds rôles, sous la conduite des autres. On occupe la place du mort. Julien Boutonnier. J'ai versé le thé. La voix, je la regarde presque. Tes lèvres tiennent le vent dans son trouble. Tu viens d'où si fort? Ma peau d'une traite a tremblé. J'ai fait vivre un peu dans les détails les formules poreuses. Des barbelés ont rêvé derrière le feu qui parle, en écho. Sanda Voïka. Mourir, c'est aller sur la butte à l'herbe molle, soyeuse, rare, presque fanée, tremblante, en vert dégradé. À la lavande fleurie aussi. Pour casser en les cueillant, avec tes gestes calmes, ces tiges rigides. Hélène de Savré. Parfois les mots tombent de la bouche du poète, sans l'ombre ni même l'idée d'un faux pli. Quant à nous, pauvres pêcheurs, il nous faut bien survivre avec nos phrases bancales et des cartons de bière pour les tenir debout. Anna de Sandre. Des marches par-dessus le ciel glissent dans un rythme qui m'atteint parfois. Roland Cornwett. Il faut se battre, il faut lutter, il faut convaincre, il faut vaincre, il faut, ils le disent, ils me l'ont dit. Christine Bloyer. On aimerait écrire loin de soi, depuis les contours d'un fleuve, ayant la forme de notre inconnaissance, loin du corps de ce qui s'y bat, loin de la précision enfouie de ses propres traces. Dominique Quellen. Nous nous déroulons. La température s'effectue en une seule fois. On réagit. Un coup arrive de tous les côtés, puis nous devenons intéressants. On est intervenu trop tard dans la nature. Tel animal va à son endroit. L'eau demeure assise au debout sur du papier. Ça conclut. Ça a la forme d'un tronçon de câble ou de cordon. Il y a encore autre chose. Kenny Osier Lafontaine. On n'obéit pas au silence. On partage en quatre les prières de l'aube. On abdique face à l'absurde des loteries du verbe. La langue emprunte les lois d'une mécanique fragile. Florence Noël. L'on dit que ce sang, c'est la pourpre de la chair en devenir. Je réponds qu'il n'en est rien. Je m'écroule chaque mois, longuement, sans chair et sans devenir. Le corps percé d'un fleuve, charriant le secret millénaire des Ève. Simone Molina. Tu ouvres les yeux et ne vois rien. Tu sens la poussière. Tu la respires. Non, tu l'inspires. Elle envahit tes narines, ta bouche, pénètre tes poumons. Rachel Lascar Feldman. Enfant, je tenais fort ta main au creux de laquelle je humais les effluves enivrants d'un commencement. Stéphane Poirier. Je suis beau dans mon costard bleu pétrole, bleu comme le ciel, la mer et les bleus d'ouvriers. Muriel Modelli. Nos corps parlent une langue inconnue, un mélange de scories, d'ardoises, de bruissements de vagues, de chants de cigales. Mes seins sont noirs, ta poitrine rosée. Ensemble, sur le lit, nous déployons la carte, plissons des yeux, la légende est fanée. Christophe Jubien. Quand l'hirondelle est revenue dans le village au sang fumé, il y avait deux fumées en moi. Les eaux nageaient parmi les arbres, la barque de mon père venait de nous quitter. Jacques Estager, j'étais venu au peintre sans apercevoir, moi, et qu'à le quitter, je perdrais le soir, aux yeux même verts et même bleus du peintre, au ciel du jardin, à la brise, sous la colline de même douceur, descendant dans la vigne. Et enfin, Stéphane Bernard, je coupe les pages, j'ouvre le texte à mon regard, d'un ongle j'en gratte le bord, je fais pleuvoir les rognures blanches, je pense à l'été, à l'exposition solaire qui brûle encore, je gratte ma peau, elle tombe en poudre, encore. Donc tous ces poètes, on peut les retrouver dans la rubrique « Un ange à notre table sur Terre à ciel » pour en lire d'autres extraits, pour découvrir aussi leur bibliographie, avoir envie de les lire davantage. Donc je vous invite à les découvrir. Je vous invite aussi éventuellement à nous envoyer des textes si vous pensez que le comité pourrait être intéressé. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle chronique. Au revoir.
Le haïku, je vous l'ai dit, est à l'honneur aujourd'hui sur la route inconnue. Après le cri mouillé du singe de Jean-Louis Chartrain, nous allons passer un petit moment avec l'une des actrices majeures du haïku en France, Isabelle Asunsolo, poète et éditrice à Liroli. Isabelle, vous venez de faire paraître un délicieux petit bouquin intitulé « Le goût du matin » avec des dessins de Lucas Fêtre. Alors je dis que ce livre est délicieux parce qu'il se présente sous la forme d'un carnet de croquis, un carnet à spirale. Et comme de juste, eh bien, ce livre est paru aux éditions « Les carnets qui rêvent ». Isabelle, racontez-nous la genèse de cette partition à deux mains.
Alors, voilà. Donc Sophie, car c'est une femme, Sophie Lucas-Fêtre m'avait envoyé, elle habite l'Oise, donc là où je me trouve, et nous nous connaissons depuis quelque temps, elle m'avait envoyé donc des croquis, des aquarelles, de petits déjeuners, et elle m'avait demandé si je voulais bien, comme elle avait fait déjà dans d'autres carnets, écrire des haïkus pour... elle avait déjà demandé à d'autres poètes d'écrire des textes pour ses aquarelles. Et alors, je lui ai répondu que non, je ne pouvais pas écrire pour ses aquarelles parce que je n'écris pas comme ça, mais que j'avais en revanche des haïkus qui parlaient du matin dans mes carnets à moi et que je pouvais donc lui en proposer et surtout, voilà, faire des associations, tenter des choses avec donc ses croquis. Ouais. Et c'est ce qui a été fait.
Alors, ceux qui ont perdu le goût de se lever le retrouveront sans doute après avoir lu ce livre, Isabelle. J'ai le sentiment que vous êtes vraiment une poète du soleil levant.
C'est ça, exactement, dans les deux sens du terme,
voilà.
Christophe, parce que j'aime le matin, je me lève très tôt, et c'est là que j'ai le plus d'idées. Souvent, quand je me réveille, j'ai souvent une idée qui est pas mal. C'est le matin que ça se passe, et souvent j'écoute cette idée-là. Et au fur et à mesure que la journée avance, je suis plutôt, j'ai une tendance à me sentir fatiguée, voilà, quand le soir tombe, mais pas le matin. Et puis le soleil levant, ben oui, c'est le Japon, c'est vrai. Et j'ajouterais que la mare, à côté de laquelle je me trouve, ma maison donne sur une mare, eh bien, est plein est, et donc le soleil et la lune se lèvent sur la mare.
Oui. Il y a dans ces haïkus une allégresse, une malice et un érotisme gourmand qui est vraiment votre marque de fabrique. Vous en êtes consciente quand même, je suppose.
Je ne sais pas. Non, je ne sais pas.
Vraiment.
Oui, la malice, oui, peut-être. En tout cas, c'est vrai que le haïku, c'est plutôt le goût du haïku que je cultive depuis 10 ans, puisque j'ai rencontré le haïku en 2004 et voilà, c'est un poème que j'aime toujours autant et que j'écris avec bonheur. Oui, oui.
Et c'est une forme qui vous va parfaitement parce que le haïku s'adresse au sens et on vous sent très sensuel. Il y a toujours beaucoup de sensualité, le rapport à la nourriture, mais même le rapport affectif aux animaux, aux plantes, aux fleurs. Chez vous, c'est tout à fait naturel.
Eh oui, eh oui. C'est vrai. C'est vrai que j'aime ça, oui, oui. Je ne pourrais pas écrire sur des choses trop abstraites. Je n'ai même pas trop essayé. Si je me perds dans les idées, je me perds tout court. J'ai besoin de m'inspirer. Et même au point que lorsque j'écris, par exemple, en ce moment, rien à voir, mais je suis en train d'écrire un texte plus long, un genre de roman, eh bien, mon écriture suit les saisons vraies qui ont lieu. Je ne peux pas écrire sur, mettons, le printemps si on est en hiver. Je ne peux écrire que ce que je... Même si c'est une fiction, hein, mon personnage est complètement inventé, eh bien, je suis les saisons.
Oui.
Voilà.
Cette attention au présent, c'est un vrai bonheur, non? Chez vous,
oui. Ouais. Et oui, ben c'est un des principes du haïku, la petite étincelle. Et c'est très amusant parce qu'en ce moment, là, j'ai sous les yeux, et ça n'a encore rien à voir, mais c'est un poème de Prévert. Enfin, je dis que je l'ai sous les yeux. Il s'appelle L'école des beaux-arts. C'est dans Parole et il parle. Alors, je ne l'ai pas vraiment sous les yeux, mais presque. C'est un poème qui parle de la découverte d'une surprise de l'instant. C'est un papa qui va mettre dans une cuvette d'eau un bout de papier qui se déploie et qui, sous les yeux des enfants, va faire apparaître, il appelle ça une fleur subite, et c'est même, il dit même, une fleur japonaise, c'est amusant. C'est un poème de Prévert, mais ce poème me plaît énormément, et il fait tout à fait le lien avec le haïku, qui est cette fleur subite, cette surprise, cet émerveillement de l'instant, et qui, curieusement, parfois se prolonge dans l'avenir, puisque dans ce poème de Prévert, qu'il faudrait retrouver, donc l'école des beaux-arts, les enfants qui ont été témoins de cet émerveillement, de cette fleur qui s'épanouit dans le récipient d'eau, en déployant des couleurs, de la peinture et tout ça, eh bien, à la fin du poème, les enfants, devenus adultes, s'en souviennent encore, comme une espèce de cadeau extraordinaire du temps présent, et bon, je trouve ça fabuleux. Du coup, c'est amusant parce qu'on m'a proposé que ce poème qui a fait l'objet d'un petit film d'animation fasse l'objet d'un atelier de haïku à Beauvais. Voilà.
Vous voilà, alors là, tout à fait récompensé.
Oui, c'est super. Et j'ai ce beau projet pour le printemps, cinéma, poésie, Prévert, haïku, pourquoi pas.
Le goût du matin d'Isabelle Asunsolo avec des dessins donc de Lucas Fêtre. C'est une fille, contrairement à ce que je pensais. C'est aux éditions Les Carnets qui rêvent. On peut trouver ce livre où? C'est un livre qu'on peut offrir parce que c'est vraiment... on peut encore se faire des petits cadeaux, même si le premier de l'an est passé. Et c'est vraiment un livre qu'on aime bien avoir en main, hein, qu'on aime bien parcourir, qu'on aime bien tenir.
Alors, il faut le commander chez Sophie Lucas Fêtre. C'est une édition limitée, il y a très peu d'exemplaires, très peu, et donc il faut lui écrire. On trouve son adresse sur Internet, Lucas Fêtre, dans l'Oise, à Monceau, et il faut lui commander. Mais vraiment, c'est tellement peu d'exemplaires que ça fait plaisir. Ouais. Voilà.
Deux mots sur l'actualité des éditions Liroli avant de lire quelques extraits de votre livre, Isabelle. Vous dirigez cette maison depuis quelques années. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Liroli?
Alors, à Liroli, nous préparons un très beau projet. Nous avons lancé un appel pour des haïkus sur la paix. La paix, oui, quel thème. Eh bien, c'est une coédition avec le Conseil général de la Somme. C'est donc un très beau projet parce que nous allons avoir nous avons la belle part. Nous n'aurons pas ensuite à chercher désespérément à vendre le livre. Une coédition, c'est un luxe pour un éditeur, pour la petite éditrice que je suis. Et donc, nous en sommes au choix des textes. Nous allons bientôt choisir et les 100 haïkus pour la paix. Tel est le titre du livre qui paraîtra en octobre 2015.
Ouais. Il y a d'autres livres disponibles, hein, pas mal de livres qui ont paru ces dernières années, qui sont toujours disponibles chez vous.
Oui,
hein.
Nos livres sont toujours disponibles parce que nous essayons de faire des tirages qui ne s'épuisent pas trop vite pour pouvoir effectivement les faire vivre longtemps. C'est un peu notre façon de voir les choses, que ça dure longtemps. Et je tiens à signaler, donc bon, mais vous l'avez sans doute dit il n'y a pas longtemps, qu'avec l'association francophone de haïku, il y a eu la publication collective de jours d'école.
De jours d'école, bien sûr.
L'école, voilà. Ouais. Bon, nous le distribuons aussi, Mais cette année 2015, c'est vrai qu'il n'y a qu'un livre en programmation parce que j'ai voulu me consacrer à ma partie auteur. Je me suis accordé ce cadeau pour ma 50e année.
Bon voilà. Anniversaire, Isabelle.
C'est bientôt, oui.
Un grand merci. Vous allez peut-être nous donner l'adresse de Liroli.
Alors, Liroli, eh bien, Liroli se trouve facilement sur Internet. Sinon, c'est... vous voulez l'adresse postale?
Les deux, peut-être postale. Et puis le site, évidemment, parce qu'on peut...
Le site, c'est édition-liroli.net. Et de toute façon, Liroli se trouve sur les moteurs de recherche. Et c'est 10 place du Plouy-Saint-Lucien, P-L-O-U-Y, Saint-Lucien, 60 000 Beauvais. Mais ça se trouve facilement. Nous avons un site avec nos activités. Et puis nous fêtons nos 10 ans au mois de mai.
Les 10 ans de Liroli au mois de mai. Il y aura une fête en particulier, non ?
Il y aura une fête au Plouy-Saint-Lucien. Oui, oui. Et nous irons à la mer le samedi, ou non, le dimanche de Pentecôte. Nous irons donc à la mer en train pour écrire un train-coup. C'est un rinku, une suite de poèmes liés, écrit dans le train à l'aller et au retour. Donc, ouais. Ça se passe à Beauvais. On démarre à 9h20 de Beauvais. On rentre le soir. On le fait depuis plusieurs années. Mais là, ça sera spécial. Nous vous invitons, Christophe.
Ah, merci beaucoup.
Tous les auditeurs sont invités, bien sûr.
Je crois que je me laissais tenter. Merci beaucoup Isabelle, on écoute un peu de musique et puis je lirai à nos auditeurs quelques extraits de ce très joli livre publié aux éditions Les Carnets qui rêvent, Le goût du matin. Merci beaucoup.
Merci à vous tous.
Je lance une petite mangue en forme de cœur. Le cardinal arrive. Je lance une petite mangue en forme de cœur. Le cardinal arrive. Je mets une fleur d'amandier dans sa paume. Elle ouvre la bouche. Je mets une fleur d'amandier dans sa paume. Elle ouvre la bouche. Dernière framboise, une seule n'ira pas dans la confiture. Dernière framboise, une seule n'ira pas dans la confiture. Il dort encore dans ses baskets trempées. Le monde en boule. Il dort encore dans ses baskets trempées. Le monde en boule. Soleil levant, elle dessine sa bouche dans le rétro. Soleil levant, elle dessine sa bouche dans le rétro. Après son départ, je mets à griller au four deux beaux poivrons rouges. Après son départ, je mets à griller au four deux beaux poivrons rouges. La chatte noire, cette odeur épouvantable de poisson rouge. La chatte noire, cette odeur épouvantable de poisson rouge. Matin de brouillard, avec notre drap de noce, je fais des torchons. Matin de brouillard, avec notre drap de noce, je fais des torchons. Nuit de neige, au réveil mon dernier fils me dépasse. Nuit de neige, au réveil mon dernier fils me dépasse. Matin d'hiver, gelée de myrtille, mes seins si blancs. Matin d'hiver, gelée de myrtille, mes seins si blancs. Yeux fermés, la langue s'immisce, miel et graines. Yeux fermés, la langue s'immisce, miel et graines. Premier jour d'automne, dans la chatière, la tête de la poule rousse. Premier jour d'automne, dans la chatière, la tête de la poule rousse. Alerte orange, le rouge gorge fini, mon Paris-Brest. Alerte orange, le rouge gorge fini, mon Paris-Brest. Petit déjeuner, la queue de la chatte passe entre mes cuisses. Petit déjeuner, la queue de la chatte passe entre mes cuisses. Voilà, toute la saveur, la sensualité, l'érotisme délicat d'Isabelle Assunsolo, Le goût du matin, avec de très beaux dessins de Lucas Fêtre et aux éditions Les Carnets qui rêvent. On écoute un peu de musique et je vous laisse dans les mains de Claude Versé. Lionel Louec, la dispute des loups, la musique c'est aussi la discordance. On écoute la chronique mensuelle de notre ami Claude Verset de la Revue des Charges, notre partenaire, je vous le rappelle.
Bonjour à tous, bonjour Christophe. Alors j'ai eu envie d'ouvrir pour vous un ouvrage paru il y a quelques années, en 2011 exactement, dans la collection Polder. La termitière de Guillaume Decourt, ouvrage qui fut réédité et qui est aujourd'hui quasi épuisé. Eh oui, on réédite et on épuise les livres de poésie, ça vaut la peine d'être dit. Ouvrage dont on m'annonce qu'il sera repris dans un volume plus important intitulé « À l'approche » aux éditions Wallonne Le Coudrier. Alors de cette termitière de Guillaume Decourt, je vais extraire un poème. Le progrès. Je connais une ethnie des plateaux africains, des hommes gigantesques aux membres scarifiés, ayant pour seule attache un troupeau de bovins majestueux qui broute une herbe desséchée. Ces pasteurs utilisent, aux soirées de mariage, la bouse du bétail comme combustible et, les femmes menstruées s'enduisent le visage d'urine de génisse et de leur sang caillé. Tout propre et parfumé dans vos salles de bain, je vous vois déplorer ce grand manque d'hygiène et vous offusquer de ces pratiques indigènes. Mais sachez cependant, et soyez rassurés, qu'aujourd'hui tous ces hommes utilisent un shampoing antipelliculaire de Schwarzkopf ou Garnier. Poème donc de Guillaume de Cour, parmi les premiers qu'on a pu lire de cet auteur, qui compte désormais parmi les valeurs montantes de la jeune poésie française d'aujourd'hui. Et on ne peut qu'être frappé de la manière propre à ce jeune poète d'employer et de réactiver des formes du passé avec rime et vers comptés. Et dans son dernier ouvrage, son quatrième donc pour être précis, Diplomatique, bon, une plaquette en vérité, pas plus de 30 pages, publiée par les éditions Passage d'encre, Guillaume de Cour continue sur le même chemin, usant de ces formes fixes anciennes auxquelles il redonne une incontestable fraîcheur, du sonnet comme du rondel, du triolet de la contre-rime, du rondeau et du pantoum, mais transcendé, bousculé par l'humour, la rime incongrue, les mots rares, des enjambements abrupts. Et ce fils de diplomate, et rappelez-vous le titre de la plaquette Diplomatique, nous promène à Tel Aviv, Bonn, Bruxelles, au gré des changements d'affectation du père, pour se terminer au moment de la retraite à Chêne-Reuil. Ce n'est pas une ville, mais le fin fond d'une forêt perdue dans les monts du Forez. Je cite. Et je vais terminer par un poème extrait de ce Diplomatique. Manière dont je vais m'efforcer de rendre l'écriture primesautière et l'audace des rimes. Manière. La femme de l'ambassadeur du Maroc me présentait sa main rondelette, que je baisais, prompt et sans vaguelette. J'avais 8 ans. Le rituel diplomatique m'était donné. Je sais l'art des lèvres qui n'effleurent que la peau, avec sécheresse, sans baver, car c'est là tout ce qui distingue du fruste. On m'avait inculqué dès le berceau l'inclinaison et la gestique juste. Fruste, je le suis pourtant devenu sans embâge, comme on déborde par tant d'orages, avec l'angoisse du parvenu qui se silhouette convenu. Me voici, petit pianiste désargenté qui prend joyeusement sa vie à contresens. Est-ce la mort fatie? Il n'y a plus qu'un barbès rochechouart au snack du coin qu'une arabe rugueuse me tend, familière, sa main calleuse. Guillaume de Cour, Diplomatique, aux éditions Passage d'encre, et à bientôt.
Bravo, grand bravo à Guillaume de Cour pour ses poèmes et à Claude Verset pour sa lecture. On écoute encore un peu de musique et ce sera au tour de Patrick Jockel de clore cette édition de La Route Inconnue avec, je crois, 2 coups de cœur. Stay. Baptiste Trottignon et son orchestre, mon Dieu, que c'est beau. Patrick Jokel, je vous l'avais promis, le voilà, rien que pour vous, deux coups de cœur. Et quant à moi, je tire ma révérence et vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle étape sur la route inconnue.
Je vais vous parler aujourd'hui d'un tout petit livre de Paul Bergès aux éditions Données à voir. Il s'agit de Haïku d'eau. Les éditions Données à voir, on les connaît aussi, ce sont cet éditeur qui travaille sur du papier recyclé et qui imprime ses livres à 365 ou 366 exemplaires selon l'année de parution. Et ici, ces haïku d'eau sont dans la collection des petits accordéons, des petits livres-objets qui se déplient, que l'on peut poser comme ça sur la cheminée ou suspendre et ainsi avoir une décoration poétique et plastique, puisque chaque livre chez Données à voir est accompagné par un illustrateur. Ce petit accordéon est tout rouge. Il y a les vagues de Titi Bergès, qui travaille en gravure, et ces vagues flottent sur les haïkus de Paul Bergès, son père, donc une ambiance très liquide pour ce livre qui se déplie, un bel objet à voir, à offrir, avec au cœur le silence des haïkus. Un petit instant de contemplation qui dévoile l'infini. Je vais vous en lire quelques-uns. Ouvert comme un livre abandonné sur la plage, un peu de mer. La nuit est muette, le silence de la neige sur les pins gelés. Le soleil du soir disparaît au cœur des flots. L'océan bouillonne. Nageoire au vent, au-dessus des anémones, un vol de poissons. Frisson sur l'étang, dans le calme de l'aurore, le duvet du vent. Bille de verre, la goutte d'eau sur la pomme me surveille. Et puis avant de terminer cette petite recension de nouveautés, une petite plaquette des éditions Laporte, un tout petit tirage à 200 exemplaires. Il s'agit d'une plaquette de Georges Catalot, son titre « Quotidienne pour interroger ». Car la poésie, c'est aussi cela, à la fois des tout petits tirages, du confidentiel, du minuscule, et en même temps du fort, du rare. Et ici, la densité est très présente. Georges Catalot interroge ce monde des bourses, ces mondes de la puissance technique. Il questionne ce progrès qui oublie tant d'humains au bord de sa route et qui détruit des pans entiers de la planète. Un questionnement qui résonne bien avec le prochain thème du printemps des poètes, l'insurrection poétique. Je vais juste vous lire une de ces questions. Comment accepter que les radars les plus puissants détectent le moindre son, repèrent la moindre image et qu'ils soient sourds et aveugles, puisqu'ils ne voient pas et n'entendent pas ceux qui souffrent. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse en espérant que vous continuez à lire de la poésie tous les jours. À bientôt.
that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb.
Money, easy, easy checks for free.